Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane.
En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions.
Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages, là ?
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout.
Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer.
Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer.
Vous savez vraiment vous occuper de nous.
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec un comédien dont la carrière est si dense qu'il faudrait environ trois quarts d'heure pour citer ses faits d'armes. Je vais donc aller à l'essentiel. Il a brillé de mille feux au sein d'un mythique trio comique, Les Inconnus, dans lequel il a fait rire des millions de Français à coups de sketchs et de chansons. Il a joué au théâtre, au cinéma, à la télévision, il a écrit, réalisé, produit des films. Bref, s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il s'apprête à camper un mari éploré dans un scénario absolument remarquable. Bonjour Pascal Légitimus.
Eh bien,
vous êtes bien reçu ici. Hein,
mais je ne vous ai pas payé pour faire ça.
Alors ça, justement, je vous enverrai la facture.
J'ai un budget marketing d'habitude, mais c'est là, je n'ai rien dit. J'ai dit j'ai pas d'argent. Et malgré tout, vous avez fait une
belle introduction.
Une belle introduction. Bah,
écoutez, sachez que je vous enverrai la facture. Je prends tout. Chèque emploi service, chèque restaurant. Vous êtes libre de payer comme vous voulez.
Chèque restaurant, très bien.
France 2 dégaine ce soir un nouvel épisode de Capitaine Marlowe. Ça s'appelle Deux vies. C'est ce vendredi, donc en première partie de soirée. Vous vous glisserez dans la peau d'un pénaliste assez tourmenté, on va le dire, car le corps de son épouse, qui a disparu depuis 10 ans, est retrouvé sans vie. Mais d'abord, je disais en introduction, vous avez une carrière incroyable. Vous avez tout fait quasiment.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un métier que vous n'avez pas fait, auquel vous aimeriez goûter, Pascal Légitimus?
Oui, j'aimerais bien jouer ou mettre en scène une comédie musicale.
C'est vrai? Ça, vous ne l'avez pas encore fait?
Non, parce que j'ai commencé ma carrière par ça.
Ouais.
Donc j'aimerais bien, pas forcément la terminer par ça, mais au moins m'engager dans cette énergie que je trouve polyvalente. On chante, on danse, on joue la comédie. Moi, je fais des claquettes depuis des années, je joue de la guitare, donc je suis un peu musicien, mais ouais, c'est pas mon métier. Avec Les Inconnus, on a un peu chanté, mais c'est pas vraiment notre métier. Ouais. Mais j'aimerais un jour me confondre avec une comédie musicale, donc ouais, avis à la copulation.
Écoutez, voilà, ça a été lancé. Acteur, scénariste, producteur, réalisateur, c'est vrai que vous avez fait de nombreux métiers. Est-ce qu'il y a une casquette en particulier qui vous plaît particulièrement, que vous préférez?
Jouer.
Jouer forcément comédien.
Jouer, et surtout sur scène, je trouve que c'est pour moi l'essentiel, parce qu'on est en interaction directe, on a tout de suite les impressions du public, et le public a le talent qu'on veut bien lui donner. Donc si on est mauvais, il est mauvais, et ainsi de suite. Donc c'est un métier difficile d'être sur scène. Voilà.
Et à la télévision aussi, parce que vous serez à la télévision ce soir. On va en parler dans quelques instants avec Capitaine Marlowe. Donc, on est en direct avec Pascal Légitimus. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Est-ce que vous avez regardé le tout premier épisode de Capitaine Marlowe sur France 2? Est-ce que Les Inconnus vous manquent? Je sais qu'on aura des questions autour des Inconnus. Donc...
Ah bon?
Oui, je pense. Il y en aura quelques-unes. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
Bonjour Damien. Bonjour Pascal.
Bonjour madame.
Eh bien c'est parti avec les audiences.
C'est parti et c'est TF1 qui est en tête grâce au retour de Munch hier sur TF1. D'ailleurs Isabelle Nanty et Tom Villa étaient sur notre plateau hier pour promouvoir ce premier épisode. 4 400 000 téléspectateurs ont en moyenne regardé. Ça représente 21% de part d'audience. C'est un peu moins que le lancement de la saison 3 l'an passé, mais c'est un bon score. Et la chaîne est devant M6 notamment et la suite de la saison 10 du Meilleur Pâtissier qui a intéressé un peu plus de 2 millions de personnes et 11,6% de part d'audience. France 2 est troisième avec Envoyé spécial. C'est un numéro inédit présenté par Élise Lucet toujours. 1 900 000 intéressés et 9,7% de part d'audience. Et au pied du podium, c'est un divertissement, celui animé par Daphné Burki et Raphaël Yem autour de Georges Brassens. Une journée avec Brassens, ça s'appelait 1 700 000 curieux et 8,9% de part d'audience.
C'est bien ça, c'est bien.
Ouais, c'est vrai, c'est un bon score effectivement. C'est vrai que chaque matin, on dévoile ici les audiences télé, mais il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés dans le jeu. Ce sont les plateformes type Netflix, Amazon. Est-ce que vous êtes attentif justement à ce qui s'y passe? Est-ce que vous avez des projets avec Netflix par exemple, avec Amazon Prime?
Alors, je ne suis pas attentif au pourcentage, à l'audience, à l'audimat.
Oui.
Comme je dis, dans l'audimat, il y a Matt, donc moi je suis impliqué évidemment.
C'est vrai.
Et un jeu de mots, oui, et un jeu de mots.
Il était bon.
Mais oui, effectivement, ce sont les producteurs qui nous font des propositions, disons voilà, il y a TF1, France Télévisions, M6, etc., Canal+, mais il y a aussi les plateformes. Donc c'est un nouvel interlocuteur avec qui il faut faire avec, mais on n'est pas obligé. C'est vrai que quand on veut rester français, en même temps, ça ne sert à rien de rester français. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que le plus grand nombre nous voit. Donc, et en même temps, c'est celui qui paye le plus. Et c'est ça la problématique. Des fois, on va vers celui qui paye le plus, mais qui ne nous accompagne pas forcément au mieux.
OK. Et en l'occurrence, les plateformes, c'est le cas. Alors après, il existe une plateforme française qui s'appelle Salto.
Salto, bien sûr.
Effectivement. Mais,
Salto ne produit pas, je ne pense pas.
Non, effectivement, voilà, ce sont surtout des programmes qui sont, sont diffusés sur TF1.
Voilà, c'est un canal de diffusion. Mais c'est vrai que Netflix disent, voilà, on met un gros chèque et on vous prend tout sur 90 ans. Quoi.
Et de quel œil vous voyez l'émergence de toutes ces plateformes, effectivement, qui sont étrangères? En l'occurrence, Netflix, c'est américain.
Bah, je ne suis pas raciste, moi, les étrangers, j'aime bien.
Ouais.
Non, mais en fait, il faut un équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça soit trop Netflix et pas assez France Télévisions. Ouais. Et c'est ça, toute la problématique est là. Où est notre intérêt? Nous, l'intérêt des comédiens, c'est de jouer le plus possible. Donc, on va vers celui qui produit le plus. Mais c'est vrai que France Télévisions et même TF1, voilà, sont quand même là. Il y a un bras de fer qui se fait. Voilà.
Alors justement, on parlait des États-Unis, on va poursuivre avec une information dont vous avez très certainement entendu parler, qui nous vient tout droit de ce pays, une information extrêmement choquante qui concerne une star américaine.
Et oui, les médias américains sont en breaking news depuis qu'ils ont appris qu'Alec Baldwin a tué accidentellement une personne sur le tournage d'un western, c'est dans l'État du Nouveau-Mexique. La victime s'appelle Alina Hutchin et c'est la directrice de la photographie du film qui était en train d'être tourné. Donc elle est décédée des suites de ses blessures. Et le réalisateur Joel Souza, lui, est grièvement blessé et a été transféré à l'hôpital. Et d'après le shérif de l'État, il serait dans un état critique. Alors d'après le Hollywood Reporter, qui cite une source sur le tournage, il s'agit d'un accident impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Alors l'enquête se poursuit aujourd'hui. Les témoins sont interrogés, Alec Baldwin notamment. Et à ce stade, aucune poursuite n'a été engagée.
C'est incroyable. On se dit, comment c'est possible, quoi,
sur un tournage. Le mec s'est dit, donc je vais mettre des balles dans un pistolet devant tout le monde, je vais tuer quelqu'un et ma carrière, on s'en fout. Je pense qu'évidemment, c'est un accident.
Ouais.
Mais qui? Alors, est-ce que c'est intentionnel? Maintenant, c'est là où l'enquête...
Exactement, parce que sur un tournage, on imagine mal une arme avec des véritables balles.
Je fais ce métier-là depuis un bout de temps et c'est vrai que les cascadeurs sont très, très, très prudents, vraiment.
Ouais. Et ça vous est déjà arrivé, justement, d'assister à un accident sur un tournage? Alors, évidemment, pas aussi grave, on vous le souhaite, mais est-ce que vous avez déjà assisté à une cascade ratée, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme prévu?
C'est pas dans ce sens-là. En fait, j'étais pour la remise des Césars des cascadeurs, qui se passait à Bercy. On m'avait demandé de faire un saut de 35 mètres pour remettre
Une récompense.
Donc, je suis allé à la répétition, donc on m'a hissé comme ça, clac, on m'a treuillé, clac, clac, à 20 mètres, et on m'a dit, Pascal, tu dis OK, et on te lâche. Et à 5 mètres avant, on t'arrête. Je dis OK, donc j'ai fait oh, OK. Sauf que le jour dit, donc le samedi soir, je ne savais pas que c'était à 35 mètres, il fallait que je me lance tout seul.
Ah oui?
C'est-à-dire qu'on m'a dit, vas-y, plonge. J'ai dit, mais comment ça, je plonge? Alors, je me suis lancé dans le vide, sauf que le papier à l'arrivée était tellement déchiqueté, ils n'ont pas pu lire qui a dit, c'est qui a remis le. J'étais tellement tétanisé.
Ah oui,
donc
la
maintenant,
surprise.
Quand je fais un petit saut de 5 mètres...
c'est facile, quoi.
Mais j'avoue que c'est une copine qui m'a dit, tout le monde, personne ne veut le faire. Boujna, il y avait plein d'acteurs qui veulent... Et j'ai parié que tu le ferais. Donc moi, j'ai dit, OK, je vais le faire. Manque de bol, j'ai eu quand même des frayeurs. Mais voilà, tu te lances toute seule dans le vide comme ça, mais j'ai pas l'habitude. Mais moi, un dodane, déjà, c'est limite.
Ah oui, effectivement, donc à 35 mètres, ça doit, ça doit faire un peu peur. Effectivement.
Mais bon, c'est le métier d'acteur, des fois.
Allez, on termine ces news médias avec l'Eurovision Junior. Ça y est, on connaît enfin l'identité du représentant français.
Oui, il s'appelle Enzo, il est âgé de 13 ans et il a été choisi par la délégation française pour porter haut les couleurs de la France à la 19e édition du concours pour enfants qui se tiendra à Paris cette année, le 19 décembre. C'est à la scène musicale que ça se passera. Alors Enzo s'est fait connaître en 2020 dans The Voice Kids, dans l'équipe de Soprano. Il avait atteint la finale. Alors pour l'Eurovision Junior, il va interpréter un titre Tic Tac. Et bien sûr, il va tenter de succéder à Valentina qui avait été sacrée lauréate du concours l'année dernière, offrant la première victoire française ce concours pour enfants.
Alors vous, Pascal, vous êtes aussi papa. Est-ce que
Je crois, oui.
vous êtes sûr? Voilà, je ne veux pas vous apprendre ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru lire. Si, admettons, vos enfants souhaitent participer à un tel concours qui parfois peut être regardé par des millions de téléspectateurs, notamment The Voice Kids, est-ce que vous les encouragez ou bien vous êtes plutôt réticent à l'idée de mettre en lumière des enfants de cet âge-là?
Je suis réticent parce que je sais ô combien c'est difficile quand on est en lumière d'après d'avoir une vie privée normale.
Ouais.
Donc, quand c'est trop jeune, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc, je ne suis pas pour l'instant.
Vous en avez souffert, vous, le fait d'avoir été, entre guillemets, sous le feu des projecteurs et du coup, voilà, d'avoir été peut-être aussi épié dans la rue. C'est vrai qu'on a une liberté qui est quand même moins importante.
C'est vrai. Alors, au début, c'est gênant parce que quand vous avez des paparazzi qui vous suivent partout, vous buvez un bol de lait, d'un coup, il y a un paparazzi dans votre face. vous êtes à la plage tranquille et puis il y a un mec avec un tuba qui... C'est compliqué parce qu'on se dit à un moment donné, c'est qu'on va plus parler de votre vie privée que votre travail.
Bien sûr.
Et toute la problématique est là. Mmh. Voilà, ça se décale et c'est dommage.
Bon, ben nous, je vous rassure, on va parler de votre travail aujourd'hui.
Non, mais tout va bien, ça va.
On est comme ça.
Je ne vais pas me plaindre, je préfère à ma place qu'à la place que d'un clochard.
Ah, bien sûr, ben ça, c'est certain. En tout cas, donc, on va parler de Capitaine Marlowe parce que c'est ce soir sur France 2, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors, France 2 diffuse ce soir, c'est ce vendredi, un nouvel épisode de Capitaine Marlowe, ça s'appelle De Vie. Alors, l'épisode commence par la découverte du corps d'une femme qui s'appelle Laetitia. En réalité, les enquêteurs vont assez vite comprendre qu'elle ne s'appelle pas vraiment Laetitia et qu'elle s'appelle Pauline et que son mari que vous jouez, ainsi que sa fille, la pensée disparue depuis 10 ans et est tout simplement décédée. Comment l'homme que vous campez va-t-il réagir lorsqu'il va se rendre compte que son épouse, eh bien finalement, elle avait disparu pendant 10 ans et là, ça y est, elle est décédée.
Alors, comme je suis suspect... J'ai un jeu qui me permet d'être ambivalent dans mes sentiments. C'est fait que le spectateur va se dire, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Donc c'est ça qui était intéressant pour moi, c'est d'être sur la corde raide avec double sentiment. Ce mec-là qui est froid, évidemment, il apprend que sa femme qui l'a quitté il y a des années n'est plus. D'un coup, la veille, on lui dit, finalement, on l'a assassiné. Alors, il joue à quelque chose, mais en même temps, peut-être que c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je me redis, mais je ne peux pas tout dévoiler. En tout cas, j'ai vraiment pris un plaisir, comme souvent quand je dis oui à une action artistique. José Dayan, j'étais vraiment agréablement surpris, parce que c'est elle qui m'avait proposé, il y a quelques années, Pascal, j'adorerais travailler avec toi. Et là, ça s'est trouvé, et j'ai dit oui tout de suite, et je me suis embarqué dans l'histoire, avec Corinne Maziero, qui est truculente, ravissante, pleine d'inventivité, vraiment, c'est génial.
Alors justement, la réalisatrice José Dayan et la comédienne Corinne Maziero sont deux personnalités très fortes, elles sont connues justement pour leur caractère bien trempé.
Ce sont des femmes qui ont des couilles.
Voilà, exactement.
Voilà, je le dis, couilles fort.
J'osais pas le dire, mais vous l'avez dit, c'est dans votre bouche. Comment vous décririez justement un peu l'ambiance sur un plateau de tournage avec Corinne Maziero d'un côté et José Dayan de l'autre?
On est pris en sandwich, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de travail, parce que José Dayan, c'est une femme qui dirige comme à l'armée toute son équipe. Et avec les comédiens, c'est une autre énergie, beaucoup plus affective. Donc voilà, ça oscille comme ça, mais on sait... Quand on arrive sur le plateau, il faut prendre ça avec humour, avec détachement, parce que le but, c'est d'arriver à faire une belle œuvre. Et elle y arrive vraiment très, très fortement.
Elle est réussie. Sarah, on va du côté des internautes?
Oui, parce que nous sommes en direct sur lefigaro.fr. Et j'ai cette première question de Sophie. Est-ce qu'un rôle récurrent dans une série vous plairait?
Alors, j'ai déjà fait du semi-récurrent, mais jamais du récurrent sur 30 ans. Comme Plus belle la vie, vous voyez. Mais c'est compliqué pour un acteur comme moi de m'engager sur du long terme. Parce que je fais beaucoup de choses différentes, un peu de théâtre. Donc j'aime bien les mini-séries. Voilà, ça j'adorais. Vous voyez, comme il y a Germinal qui va sortir.
Oui, en 4, 5, 6 épisodes.
Voilà, ça c'est formidable parce que du coup on est dans une belle énergie et puis on peut faire autre chose. Mais là il y a des projets qui se profilent.
Lesquels?
C'est des projets qui se profilent.
Des projets qui se profilent, tout simplement. On n'en saura pas plus.
Alors... Mais je peux vous dire que c'est sur une autre chaîne, mais que le 6-11, je suis dans un meurtre.
Ah bien sûr, oui, meurtre à Marie-Galante.
Tout à fait.
Avec Laurent Voulzy. D'ailleurs, c'est quoi là, ces chanteurs qui viennent vous piquer votre métier d'acteur?
Alors en fait, Laurent Voulzy, c'est un cousin, donc c'est moi qui ai eu la gentillesse et l'amabilité de l'appeler et de lui proposer de faire un petit clin d'œil à la fin du scénario. Il a accepté gentiment, donc il a fait le voyage Paris-Marie-Galante, évidemment.
Marie-Galante, la chanson, forcément.
Et donc, il s'est prêté au jeu, il est resté une journée, il est reparti, mais c'était super.
Vous êtes cousin de Laurent, vous le dites d'ailleurs, je savais pas.
Ouais, moi aussi, je savais pas.
Vous l'avez découvert le jour du tournage. Alors, dans cet épisode, on va revenir à Capitaine Marlowe. Il est question de disparition volontaire, les téléspectateurs le verront, de changement d'identité. Et chaque année, ça c'est un fait réel, environ 13 000 Français choisissent de se volatiliser, de plaquer leur passé et de ne jamais revenir. Vous, est-ce que vous avez déjà eu ce fantasme-là en tête? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, bon allez, Pascal Légitimus, c'est fini, je disparais, je vais sur une île déserte et plus personne ne me retrouve?
Non, parce que j'ai tellement une belle vie, je ne vais pas me plaindre, comme dirait M. Sacha Distel, oh la belle vie, que je ne vais pas me plaindre, j'ai une famille, le frigidaire est plein, je ne suis pas malade, je touche du bois. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc j'avance dans cette belle énergie. Non, non, je... Je ne suis pas dans l'énergie de itinéraire d'un enfant gâté.
D'accord. Alors, c'est vrai que la star de Capitaine Marlowe, tout le monde le sait, tous les téléspectateurs qui regardent cette série le savent, c'est Corinne Maziron qui interprète Capitaine Marlowe. C'est une gendarme peu commune, il faut le rappeler. Elle porte la chapka, elle exhibe son accent ch'ti sans complexe.
C'est ça qui est bien, c'est que c'est différent.
Exactement, on n'est pas dans le cliché de l'héroïne qu'on avait il y a encore quelques années à la télévision. Oui. Cette fois-ci, c'est vraiment une femme, pour le coup, authentique. Quel regard vous portez justement sur ce personnage qui est effectivement truculent?
Alors, quand on le voit à la télévision, c'est une chose. Quand on le voit en vrai, sur le tournage, c'est encore 10 fois plus puissant.
Ah oui ?
Parce que déjà, elle a une vraie personnalité, elle, dans la vie. C'est, ah ouais. C'est une femme voilà, qui vient de loin et puis qui sait où elle va et c'est ce qu'elle veut. C'est elle souvent qui refait un peu ses dialogues,
oui,
qui les met en bouche, donc du coup ça donne des choses. Et elle m'avait dit, bon, Pascal, j'ai changé des trucs, hein. Donc il y avait plein de noir sur la feuille, je dis ok, il n'y a pas de problème. Alors, quand j'ai fait de l'improvisation, je me suis prêté au jeu, et puis voilà, elle m'a dit, oh, tu me suis. Donc c'était très agréable, et c'est beaucoup de créativité, et ça c'est plutôt bien, plutôt que de faire les choses très droites, sans imagination, c'est voilà.
Sarah, des questions?
Oui, alors pour rebondir sur Capitaine Marlowe et Corinne Maziron, beaucoup me demandent ce que vous avez pensé de sa prestation au César.
Ah oui, très commenté.
C'était l'année dernière, en février dernier, on s'en souvient, elle s'était déshabillée, elle s'était retrouvée nue sur scène.
Ah bon?
Qu'en aviez-vous pensé?
Je ne l'ai pas vu.
Vous ne l'avez pas vu?
Alors, vous avez vu en replay, c'est
oui, oui, sûrement. Mais c'est difficile d'en parler.
Ça s'est passé quelques mois après le tournage, d'ailleurs. Vous avez tourné en décembre 2020 et les Césars, c'était en mars.
Il y avait un message fort derrière. Alors après, la forme et le fond, c'est compliqué. Je peux pas en dire grand-chose, parce que c'est à qui ça s'adresse, pourquoi c'est fait. Je pense que c'était de bonne volonté.
Oui, c'était pour dénoncer le manque de considération du gouvernement.
Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il y a une franche partie de la population qui a dû sûrement dire être... qui était un peu vexée. Et puis, il faut faire ce genre de choses, je pense, pour réveiller un peu les consciences.
Il faut choquer, c'est ça.
Après, la manière, bon, ça, c'est propre à elle. Mais de temps en temps, on a besoin de up-tempo. Ouais.
Alors, lorsqu'on tend l'oreille dans Capitaine Marlowe, on se rend compte que la série fait parfois passer des messages un peu politiques. Dans l'épisode de ce soir, les téléspectateurs entendront, par exemple, les lanceurs de balles de défense utilisés par la police. Vous savez, les fameux LBD qui sont très controversés. Il sera aussi question de genre, à un moment donné, avec un sac à main qui lui est rendu. Enfin, il y a des petites pépites comme ça, politiques, qui sont insérés dans l'émission, enfin dans la série. Est-ce que c'est le rôle d'une fiction justement de faire passer des messages comme ça?
Sur France Télévisions, oui. Je pense que c'est une chaîne publique. C'est à un moment donné, il faut élever les consciences.
Ouais.
Il faut donner un peu des directions d'égalité, de liberté, de fraternité. Et je pense que voilà, moi je suis assez d'accord parce qu'avec Les Inconnus, c'est ce qu'on faisait. C'est mine de rien, on mettait des choses qui avaient du sens. Le sens, c'est quoi? C'est comme l'essence, c'est fait pour avancer. Donc on a besoin d'avancer de belles manières. Et voilà, les téléfilms, les chansons, enfin tout ce qui est créatif, se doit de nous faire réfléchir aussi, de nous amuser, d'avoir cette ambivalence, d'être dans l'amusement et de dans la réflexion.
Allez, ça reprend une question?
Oui, alors vous le pressentiez tout à l'heure, on a plein de questions évidemment sur les Inconnus.
Ah bon?
On s'en excuse, excuse.
Il y a des nouveaux projets par exemple, je crois que Bernard Campan l'avait laissé sous-entendre il n'y a pas très longtemps. Voilà, quel lien vous gardez avec eux? Est-ce que vous vous voyez souvent? Voilà, est-ce qu'on peut faire un tir groupé et répondre à tout ça?
Chère madame, on va faire simple, d'accord. Bon, nous sommes déjà amis.
Donc vous vous voyez?
Bon.
On est amis depuis plus de 40 ans.
Ah oui, ça commence.
Ça fait plus de 35 ans qu'on travaille ensemble.
Ouais.
On a démarré ensemble au Théâtre de Bouvard. Donc ça a scellé cette amitié. Bernard est venu bruncher chez moi il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir Didier au théâtre. Bernard est venu me voir au théâtre. Didier est venu me voir au théâtre. On se voit. Nos enfants se voient. Donc non, on est amis, on est frères, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Et sans se concerter, on a même. Sans se concerter, on a donc dit oui en 2019 aux Enfoirés.
Ah oui?
On s'en rappelle.
Sans se concerter. C'est-à-dire qu'on a dit oui, on s'est retrouvés là avec bonheur devant 12 000 personnes. Et là, on a un projet, effectivement, je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas acté, mais quelqu'un nous a proposé un scénario qui n'est pas de nous. Je pense qu'on va mettre notre patte certainement dedans, mais voilà, en tout cas, il y a des gens qui ont eu cette envie de nous coaguler tous les trois.
Donc
et on a dit oui.
Vous pourriez vous retrouver tous les trois dans un film prochainement?
Vous pourriez, j'aime bien le « vous pourriez ». Nous pourrions.
D'accord.
Je peux pas en dire plus parce que, après, les médias s'emballent, donc
non, mais...
nous pourrions, trois petits points.
Vous pourriez. Pour l'instant, en fait, on
en est à quel... Trois petits points, donc Bernard, Didier, Pascal.
Mais on en est à quelle étape, là, concrètement? Vous êtes en réflexion ou bien vous travaillez déjà sur le scénario? On en est à quelle étape?
Vous avez quel âge, madame
Oh, ça va.
On peut passer à autre chose.
C'est mal poli de demander l'âge à une femme.
Bah oui,
mais vous êtes jeune pour moi.
C'est vrai. Mais c'est vrai que.
Ce n'est pas indécent de demander à une jeune quel âge vous avez. Bon, bah alors.
Mais c'est vrai, Pascal, que ce qui était absolument délicieux dans votre trio, qu'on a tous adoré, c'est que vous vous moquiez absolument de tout le monde dans Les Inconnus.
On aime nos personnages.
Voilà. Mais vraiment de tout le monde. C'est-à-dire que vous vous moquez des journalistes sportifs, vous vous moquiez des profs, de la religion.
C'est pas se moquer. C'est pas se moquer. Si je peux me permettre, sans
bien
vous
sûr,
vexer,
non,
Charlie,
non, vous me vexez pas
c'est qu'on restitue ce qui existe avec notre point de vue.
Vous caricaturez, un petit peu quand même.
En fait, la réalité est pire que la fiction.
Ouais. Ah, vous pensez
ah bah,
quand vous caricaturez, par exemple, ce qui se passe à l'hôpital dans le fameux sketch, vous pensez que la réalité est pire que ce que vous...
Une preuve, tout de suite.
Dites-moi.
Je suis allé à Marie-Galante, effectivement, pour des affaires de famille, au cadastre. Je vois une lentillesse qui dit « Bonjour, monsieur légitimiste, qu'est-ce que vous voulez ?»« Ben, mon papier, vous savez, j'ai demandé il y a 15 jours. »« Ok, d'accord, ok. » »« Alors, vous me le donnez, mon papier ?» Elle me dit « Je donne le tampon. » »« Poum, poum, poum. » Je dis « Quand est-ce que je l'aurai, mon papier ?»« Écoutez, vous l'aurez la semaine prochaine, dans 15 jours. »
Ah oui, la semaine prochaine, dans 15 jours.
Donc
ah
cette
oui,
phrase-là, on le met dans un film. Ah bon, c'est une vanne, mais c'est une réalité. Ouais. Donc ce n'est pas une critique, on restitue ce qui existe. Les infirmières dans les hôpitaux, bah, évidemment, j'en ai vu. Puis il y en a qui sont des... Voilà, mais c'était amusant pour nous de faire passer un message à travers ces personnages. On se sert des personnages pour faire passer des messages. Voilà.
Néanmoins, est-ce qu'il y a des sketchs aujourd'hui que vous ne pourriez plus faire avec Les Inconnus?
Moi, j'ai fait un sketch sur Daesh il y a 3 ans, dans mon spectacle, mon seul en scène. Et je l'ai testé en Tunisie d'abord. Ouais. On m'a dit, mais t'es fou ! Ça a marché. En fait, c'est la manière de... Exemple, dernier exemple. J'ai fait un sketch sur l'homosexualité, le mariage pour tous. Donc, c'était un couple homosexuel qui avait un fils hétéro. Et le fils hétéro faisait son coming out.
Ah.
Il explique à ses parents homo qu'il aime une femme.
Sujet très touché.
Donc j'ai inversé là, vous voyez. Donc voilà, on peut parler de tout, ça dépend de la manière, je pense.
Donc vous pensez qu'aujourd'hui, un artiste, parce que là on va vraiment parler de l'art en général, vous pensez que dans l'art aujourd'hui, tous ceux qui créent sont libres? Est-ce que
on n'est pas libre, parce que maintenant en haut, il y a vraiment une censure, et surtout maintenant tout le monde s'exprime. Avant, on recevait des lettres dans les chaînes.
Ouais.
Maintenant, les gens s'expriment en direct, et comme les décideurs prennent en compte. Ce qui se passe.
C'est ça le problème, c'est les décideurs qui prennent en compte les réseaux sociaux, vous parlez.
C'est les décideurs qui ont peur. Ouais. Donc, du coup, on ne va pas faire intervenir cette personne-là parce qu'elle a perdu 1 million, voilà. Ouais. Dieudonné, quand il passe à la télévision, les gens, ils zappent, il y a 1 million de gens qui s'en vont.
Ouais.
Donc, du coup, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une réalité, voilà.
Et c'est vrai qu'on a l'impression que la liberté a un petit peu reculé dans le monde de l'humour. Plusieurs humoristes sont venus sur ce plateau et nous ont dit que, malheureusement, ils devaient parfois s'auto-censurer aussi.
Pas que dans l'humour, regarde dans la vie de tous les jours, tout se réduit, malheureusement. Ouais. Faut pas se laisser faire.
Et comment on fait? Est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'il faut justement oser faire des sketchs audacieux quand on fait des spectacles, par exemple?
On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc forcément, à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas droit à la parole. Et que le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Ouais. Quelqu'un qui est vexé parce qu'il a été touché, ça le regarde. Mais à un moment donné, il faut aussi parler des choses importantes, des choses qui sont graves. Sinon, tout est lisse, tout est... Oui, c'est pas intéressant. Non, les artistes ont une fonction primordiale. C'est qu'on appuie dans le bouton pour que le pus sorte.
Exactement.
Sinon, qui va le faire à part le médecin? Et les médecins, il y en a moins en moins parce qu'ils sont tous radiés parce que il y a des problèmes avec tous les vaccins. Enfin, non, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Sarah? Et heureusement qu'il y a de l'humour pour parler de tout ça.
Ah ben, exactement, oui. C'est vrai.
Moi, j'ai Fabrice sur la page qui se demande si la diversité à la télé s'est améliorée dans 20 ans. Demande-t-il. Oui. Est-ce que vous avez un avis? Bon,
regardez, moi j'étais dans les années 80, je suis là, et puis maintenant c'est bon, juste c'est Omar Sy qui est plus foncé.
Ça
bouge, hein, à un moment donné. Nous on avait Henri Salvador qui était plutôt clair. Il n'y avait pas grand monde, c'est vrai.
Mais aujourd'hui encore, il y a des progrès à faire, non, Pascal Légitimus?
Alors, il y a une mode aujourd'hui qui s'appelle le wokisme.
Oui,
ça.
Exactement. Oui, alors, c'est une façon de
à la mode. Hein.
Oui. Je pense que ça vient beaucoup des Chinois, des Gitans, des aveugles, des handicapés.
Mais de toutes les communautés, en fait.
Il faut représenter la société telle qu'elle est, point barre.
Voilà,
il ne faut pas avoir peur de... Voilà.
Vous êtes pour la discrimination positive, vous? Pour les quotas, dans les fictions, par exemple, aux États-Unis, on en parle aussi. Hein.
Oui, mais nous, les quotas... Alors, moi, si je veux 20%, et que si on m'impose 20%, je veux 22%, on va dire, ben non, 20%. Mais si je veux 22%, oui, non, c'est compliqué.
Ouais.
Non, il faut laisser faire, et puis...
Il faut être recruté pour votre talent, tout simplement.
Voilà, surtout ça.
Voilà. Alors, une dernière question, et puis après, on passera à notre dernière rubrique sur les inconnus. Cette étiquette, c'est vrai, elle vous colle au front depuis maintenant des années. Est-ce que vous diriez qu'elle est encombrante ou bien séduisante pour vous?
Je préfère être à ma place que la place d'un clochard.
Oui, c'est
largement.
Ce que vous avez dit tout à l'heure.
Non, c'est génial. C'est-à-dire que les gens nous aiment parce qu'on leur a fait du bien et nous le rendent. Dans un moment donné, je ne peux pas renier ça.
On vous en parle combien de fois par jour des inconnus?
Vous êtes le cinquième depuis ce matin.
Le cinquième depuis ce matin.
Il n'est que midi, hein. À peine midi.
À peine midi.
Voilà. Non, mais c'est génial. Les gens disent « Ah, je vous adore, on fait un selfie. » Je dis « On peut faire un sexy ?» Une petite vanne, une petite vanne.
De temps en temps, il y en a qui disent oui à ça. Non, non, ne répondez pas à cette question.
Non, je ne répondrai pas.
Vous attirez des ennuis.
Donc, Captain Marlowe ce soir, voilà. Et... Non, mais déjà, je reçois beaucoup sur mon Instagram des gens « On va vous regarder, c'est génial, on vous adore, avec Maziero, c'est super. » Et puis voilà. Non, non, voilà. Donc, c'est... on crée de la joie et on crée du bonheur. On est là pour ça.
Bon, là, on va vous poser des questions auxquelles vous allez devoir répondre, cher Pascal Légitimus, parce que notre dernière rubrique s'appelle « En toute franchise ». Alors, en toute franchise, c'est notre dernière rubrique. On vous pose une série de questions. Il faut que vous y répondiez à cœur ouvert, avec le plus de sincérité possible.
Bah, le cœur ouvert, non.
Vous inquiétez pas, on épongera.
Un peu d'hypertension.
Quel est votre plus beau souvenir de carrière?
Assez chaud. Il y en a eu tellement.
Ouais, vous en avez eu beaucoup.
Ouais, mais avec les... Bah, les plus beaux souvenirs, c'est quand on crée avec tous les trois. Voilà, on s'enferme dans une pièce, on rigole, on se marre, et puis ça donne quelque chose de concret après. Donc les plus beaux, voilà, c'est, pour moi, c'est, je concrétise ça avec le partage avec mes deux camarades.
Et votre pire souvenir, maintenant?
Pire souvenir, c'est quand j'ai reçu ma feuille d'impôt.
Oui, vous avez eu un rappel?
Voilà, quand vous avez commencé à gagner un peu d'argent, quoi.
C'est ça, voilà. Ah oui. Donc, d'ailleurs, la première, si j'étais président de la République, la première chose que je ferais...
C'est la question que j'allais vous poser juste après,
ça.
Mais vous anticipez tout.
Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi de supprimer les droits de succession.
Ah oui, ça c'est vrai. Ouais.
Vous êtes d'accord?
Vous avez été confronté à cette problématique-là récemment?
Pas encore.
Non.
Comme j'ai des enfants, j'avoue que...
Et vous voulez anticiper ça? Vous allez vous organiser?
Ben oui, en fait, c'est compliqué. Non, non, c'est, je trouve que c'est une honte. Voilà. Mais, ça, c'est un point de vue, mais je pense qu'on est nombreux à se dire toute notre vie, on travaille, on cravache pour obtenir quelque chose. Ouais. Il faut s'en débarrasser pour payer autre chose. Ouais. C'est chaud, quoi.
Vous êtes taxé sur votre décès, entre guillemets, c'est ça?
Oui, c'est l'assurance mort, en fait.
Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et votre apparence physique? Bon, apparence physique, il n'y a rien à jeter.
Non, c'est pas ça. C'est que... Non, mais quand j'étais petit, j'avais du mal à accepter ma couleur, parce que j'ai la couleur entre deux chaises. Donc on prenait pour un Brésilien, un Marocain, un Indien, mais jamais pour ce que j'étais, c'est-à-dire un métis sage. Donc à un moment donné, ça m'emmerdait. Donc je disais, je suis arménien et antillais. Mais c'est quoi ça, ce mélange bizarre? Je suis cocasse, cocotier. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, je l'accepte, évidemment, j'en suis fier même.
Et pourquoi ça vous a dérangé
Parce que les gens me faisaient remarquer. Ils disaient, retourne dans ton pays, bamboula. Enfin, moi, j'ai subi, quand j'étais gamin, des griefs, certainement... Beaucoup de personnes me comprendront, c'est que voilà, j'étais un peu rejeté à cause de ma différence.
Et aujourd'hui, c'est plus le cas?
Non, au contraire, les gens me payent pour que je sois ami avec eux. Non, aujourd'hui, les gens ne voient plus ma couleur, donc c'est ça la victoire.
Quelle manie ou toque vous avez avant d'entrer en plateau, sur un plateau de tournage?
Je suis sponsorisé par Pampers.
Ah, c'est pas vrai.
C'est-à-dire que...
Non, je rigole.
C'est-à-dire que vous avez besoin de passer au cabinet
non,
avant...
Non, j'étais d'une vanne pourrie, mais non, parce que j'ai des copains, c'est ça. Mais non, moi je me concentre, je m'isole, vraiment. Il y a des gens qui font plein de trucs, moi je m'isole et je refais tout le texte pendant 20 minutes à toute vitesse. C'est le seul moyen d'être concentré.
Allez, on termine sur cette question. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez?
Ma femme.
Votre femme? Ah oui, l'objet le plus précieux. Oh, il ne faut pas que vous lui remontiez cette séquence-là, Pascal Légitimus. Parce qu'en fait, précieux, ça passe. Objet, elle ne va pas aimer. Je vous le dis.
Je suis d'accord.
ça risque de mal passer. Okay. Voilà. Essayez précieux... de cacher le replay. Essayez.
Non, si, le plus précieux que j'ai, c'est ma voiture. C'est une Saab que j'ai depuis 30 ans. Voilà. Saab, pourquoi? C'est supérieur aux autres bagnoles.
Ah, c'est vrai.
Et les gens me comprendront aussi, les Saabistes. C'est une voiture. Mais incroyable.
Écoutez, on a fait un beau placement de produit. J'espère qu'on en recevra une gratuite ici au Buzz TV.
On a le droit de faire des placements de produits.
Oh, vous inquiétez pas.
Enfin, je dis, c'est pas fait exprès, je m'en fous.
Merci beaucoup, Pascal Légitimus.
Merci de votre accueil.
Merci
super.
D'avoir accepté.
Rendez-vous ce soir alors.
Bien sûr, c'est ce soir, Capitaine Marlowe. Ça s'appelle Devis avec Pascal Légitimus, Corinne Maziero, toujours dans le rôle du capitaine.
Et Mylène de Mongeau.
Exactement, qu'on peut citer aussi en guest. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sarah, pour les questions internautes. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Buzz TV avec un aventurier. Cette fois-ci, il se trouve actuellement dans la saison All-Star de Koh-Lanta. Il brille de mille feux. Il s'agit de Laurent Mestret qui sera avec nous sur ce plateau lundi. Soyez au rendez-vous avec toutes vos questions. En attendant, un excellent week-end et à demain. Et non, pas demain, demain on dort. Lundi pour un nouveau Buzz TV.
Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane.
En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions.
Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages, là ?
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout.
Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer.
Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer.
Vous savez vraiment vous occuper de nous.
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.